de Zeus.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe?
Je ne peux pas vous le dire.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Vous me recevez à vous parler.
Qui êtes-vous?
Je n'en sais rien. Et je compte bien le découvrir.
Fini la rigolade.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort, Moine-l'œil? Qu'est-ce que vous faites?
Votre émission hebdomadaire sur le cinéma.
Vous avez une autorisation?
Bien entendu, j'en ai une.
Cinérama.
Ce nom, je n'encaisse pas.
Ben ça, c'est ton problème!
Chronique, blind test, interview.
Eh ben, c'est génial!
Amusez-vous bien.
C'est gentil.
Tout le plaisir est pour moi.
Bonjour et bienvenue. Cinérama, c'est 30 minutes pour parler cinéma. C'est vous parler des films qui sont dans les salles actuellement. Et c'est aussi vous faire entendre les réalisateurs quand nous en rencontrons. Et nous en avons rencontré un. Il s'agit d'Alain Guiraudy, puisque nous avons parlé de son dernier film, Manu.
Qui s'appelle donc Miséricorde, un titre biblique et un film vraiment formidable.
Alors, il n'attirera pas les mêmes spectateurs qu'un autre film dont tu vas nous parler.
Oui, un film d'horreur extrême, interdit aux moins de 18 ans, qui s'appelle Terrifier 3.
Et puis toi, tu as un film pour enfants plutôt, Guillaume?
Oui, moi je suis de l'autre côté du spectre, c'est pas biblique, c'est pas sanglant, c'est pas grand-chose non plus. C'est Harold et le crayon magique.
Sophia nous parlera de l'histoire de Souleymane, qui est un film qui marche plutôt bien en salle, mais nous allons commencer avec Gilles Lelouch, qui est aux commandes d'un film généreux mais désordonné, c'est L'amour ouf.
Par ici, s'il vous plaît.
Cinérama.
Mais avec joie.
Tu sais, pendant toutes ces années, j'ai beaucoup pensé à toi. À nous, à ce qu'on était. Parce que t'avais tout gâché.
Gilles Lelouch connaît Cannes, hein, parce qu'il avait clôturé le festival en 2018 avec Le Grand Bain, film qui avait conquis ensuite les salles avec plus de 4 millions d'entrées. Avec L'amour ouf, l'acteur-réalisateur s'est emparé d'un tout autre projet. Le budget de plus de 30 millions se voit à l'écran entre la débauche de comédiens et donc de cachets, Adèle Exarchopoulos, François Civil, maintenant couple dans la vie, Raphaël Quénard, Benoît Poulvord, Alain Chabat. Et puis il y a aussi la débauche d'action avec les séquences à mettre en place pour les représenter. Et ça, forcément, ça a un coût. Alors au départ, avec un titre pareil, on se dit que Gilles Lelouch veut nous parler d'une histoire d'amour incroyable. Alors oui, d'une certaine manière, mais il le fait avec le prisme du film de Truand. Pourquoi pas? Ça permet de fédérer les publics, car L'amour ouf, en compétition à Cannes, doit être pris pour ce qu'il est, un film grand public.
Qu'on était les mêmes, toi et moi. Mais j'ai pas compris qui t'étais, en fait.
Tu bosses pour moi.
La trame de L'amour ouf, c'est l'amour inconditionnel de deux adolescents. Il y a Clotaire qui vit dans une famille de prolos avec une mère aimante et un père qui a la main lourde, et puis qui traîne avec ses potes en quête de mauvais coups à faire. Et puis il y a Jackie, jeune fille sensible, élevée par son père bienveillant et attentif. Ces deux-là, qui ne se ressemblent pas vraiment, vont s'aimer au premier regard, mais un événement va les séparer. Dans un mauvais coup, Clotaire va payer pour le crime d'un autre, s'ensuit plusieurs années de prison. D'un côté, la haine, hein, qui débouche sur la soif de vengeance. De l'autre, Jackie, qui mène une vie de français moyen, qui est en couple, hein, qui a le sourire. Mais on sent que la monotonie guette. Et quand Clotaire sort de prison, eh bien lui, il n'a qu'une envie, revoir la seule fille qu'il a aimée. Normal.
Je veux te voir, Jackie.
Elle est mariée. Et elle est heureuse.
Ce que penser à toi, c'était m'inquiéter pour toi.
C'est qui, Steve?
T'as gâché toute ta vie comme ça.
C'est pas ma vie, ça!
Sur ce canevas d'un amour qui doit revivre, Gilles Lelouch va mener de front plusieurs genres en tentant de rafistoler les deux personnages. Une sorte de drame qui s'estompe en laissant place au film de gangsters avec course-poursuite, vengeance et exécution. Et puis des phases de comédie. L'amour ouf est une sorte de fourre-tout. La rencontre de ces deux êtres pourrait être improbable, mais on est prêt à croire qu'une adolescente qui dit ne pas aimer la violence puisse aimer à ce point un garçon qui s'y épanche par une sorte de déterminisme. Le film commence par un prologue vif et sanglant pour ensuite nous accorder les années lycée avec un grand flashback où on entend The Cure, ça fait plaisir. Et dans cette première moitié du film, le réalisateur place ses pions et a recours à une mise en scène qui s'essaie à plein d'audace. Alors des images diffractées, une caméra sur un carton, une vue subjective à la Gaspard Noé dans Enter the Void, ça envoie, on le voit. Peut-être un peu trop. Mais il semble que Lelouch a eu plein d'idées hein, pour emballer une histoire qui n'est pas nouvelle, deux êtres qui s'aiment malgré leurs différences, un événement qui les sépare et l'amour trop fort qui les change. La seconde partie du film est la plus féconde, il s'y dit plein de choses intéressantes et belles, hein, mais déjà dites plein de fois, sur l'amour, le temps qui passe, le couple, le quotidien, et qu'est-ce qu'on fait de la passion quand on a peur, quand on l'a pas menée à terme. Lelouch a préparé des scènes savoureuses, mettant en image le choix de la normativité sociale en mesurant les conséquences. C'est beau, si, parce qu'on a envie d'y croire. Le cinéma nous a fait croire à plein d'histoires comme celle-ci, que l'amour dépasse tout, qu'on peut changer pour l'autre parce qu'on l'imagine unique, libérateur, émancipateur et que sais-je. Le cinéma n'énonce rien de nouveau, la mise en scène manque alors évidemment de clarté naviguant entre les genres, mais tout est là pour qu'on puisse s'attacher aux personnages. Et c'est déjà beaucoup. Autant dire que je recommande ce film de Gilles Lelouch, L'amour ouf, je serais peut-être un des rares en tout cas, mais voilà, vous pouvez tenter l'expérience. Ce film est en salle depuis le 16 octobre. Souleyman doit passer son entretien de demande d'asile, mais il n'est pas prêt. Nous parlons de l'histoire de Souleyman.
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Hein. Vous voulez rire ?
Connerie, 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 je vous dis. Et même saloperie, hein.
Vous êtes beaucoup trop bavard.
Cinérama.
Monsieur Sangaré, moi je suis là pour vous écouter. C'est quoi votre histoire à vous ?
Présenté à Cannes dans Un certain regard, il s'agit du troisième long-métrage de Boris Lochkine qui, dans un travelling avant néo-réaliste, nous plonge au plus près du derme de son acteur amateur, Abou Sangaré, un Guinéen de 23 ans qui joue presque son propre rôle. Impressionnant de justesse hein, dans sa performance, lui qui, à son jeune âge, a déjà vu sa demande de régularisation rejetée à trois reprises par l'administration française. Grâce à son interprétation dans l'histoire de Souleyman, il décroche le prix du meilleur acteur, une récompense qui lui permet de redistribuer les cartes de son destin. Mais combien d'autres, dans sa situation, n'ont pas cette même opportunité ? Dans le film, il incarne Souleyman, un jeune Guinéen qui travaille illégalement comme livreur à vélo dans un Paris qu'il ignore. Son audition à l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, approche. C'est une course contre la montre sur deux jours qui se dessine. Souleyman se répète en pédalant l'histoire qui pourrait convaincre l'administration de lui accorder l'asile. On le suit dans ses courses effrénées à vélo, ses rencontres avec le prête-nom qui lui permet d'utiliser son compte de livreur contre une grasse contribution, ses sessions express de coaching où il paie pour réviser son histoire et le sprint final à la fin de chaque jour pour rattraper le dernier bus qui convoie les sans-papiers vers le centre d'accueil. Un long métrage qui trouve en ce moment un certain succès en salle, 12 000 entrées dès son premier jour, ce qui représente une performance plutôt solide pour un film indépendant distribué par Pyramide et qui aborde des questions migratoires sensibles et engagées.
Frérot, je t'ai donné le compte pour que tu travailles.
Ça sonne pas.
Il faut travailler, frérot. On n'est pas venu en Europe pour jouer.
Fais le tour.
Toi, c'est pas Emmanuel, toi.
Effectivement.
Oui, là.
Ouais, c'est pas lui.
Souleyman, Mouriandi.
Merci.
J'ai besoin des sous.
Demain, je te paye à 13h.
Le film réussit à la fois à être édifiant et vertueux, tout en restant très tenu, ce qui en fait une force et aussi une faiblesse. Amorcé dans une pure tradition néo-réaliste, à la frontière du documentaire, on se croirait presque, hein, dans un premier temps, face à un portrait social des sans-papiers en France, qui peut rappeler à bien des égards des réalisations telles que Vol spécial de Fernand Melgar, documentaire suisse de 2011, se situant du côté des demandeurs d'asile en attente d'expulsion, mais qui s'attardait également sur leurs accompagnants dans les centres d'accueil. Ce choix contraste avec la proximité immersive pour laquelle Boris Lochkine a opté pour l'histoire de Souleyman. Le point fort du film réside bien là. En se concentrant uniquement sur lui, deux jours de sa vie, le spectateur est totalement immergé dans son quotidien de livreur à vélo, du côté du dehors, hors les murs des coquettes habitations bourgeoises de ceux qui attendent leur burger.
C'est pour moi, courage.
Merci beaucoup.
Vous voulez un coup de main ?
On va doucement.
Souleyman, c'est pas le 22 février, c'est le 19 février. Entretien, on donne deux jours. On maîtrise l'histoire.
Du pseudo-documentaire, le film bascule dans un thriller social où l'atmosphère devient de plus en plus étouffante à mesure que les pressions s'accumulent sur les épaules de Souleyman. On retrouve ici un mécanisme similaire au Voleur de bicyclette, hein, film de Vittorio De Sica, avec un compte à rebours et une trajectoire tendue comme un fil. Les pressions diverses, hein, quête d'argent, accident de vélo, rupture, rencontre avec la police, finissent par distancer un peu le personnage du spectateur, d'autant qu'on réalise très vite, hein, que l'histoire de Souleyman est un mensonge. Lochkine mise ainsi sur une construction héritée du cinéma vérité qui interroge sur la capacité du cinéma à saisir ou à provoquer l'authenticité, à faire éclater une vérité cachée. Dans l'histoire de Souleyman, le film capitalise sur ce jeu entre masque social et réalité, une dialectique qui réussit finalement à faire éclater la vérité intime de son personnage.
115 Paris, bonjour.
Vous savez prévoir une place pour ce soir, s'il vous plaît.
Faut pas stresser, reste optimiste.
S'il vous plaît, ne me pousse pas.
Au lieu de me pousser, si vous me passez la commande.
T'as pas le droit de frapper chez moi.
Tu as peur pour l'entretien?
Comment ça, tu me dois rien? Je veux mon argent.
T'as pas à avoir peur.
Allez, dégage!
Tu sais ce que tu as vécu.
Et si on me prenne pour un menteur?
Non, mais toi, t'es pas un menteur. Tout ira bien.
Le film est engagé, sans aucun doute. Il nous montre que même si cela ne correspond pas aux critères officiels d'obtention de l'asile, tout parcours migratoire est politique, qu'il soit dû à des raisons climatiques, géopolitiques ou économiques. La raison du départ de Souleymane, son passé, sa vie reste trouble, jusqu'à la scène finale où tout s'éclaircit lors de son face-à-face avec l'agente de l'OFPRA. Un classique champ contre champ où Lojkin choisit de résoudre l'ambiguïté. J'aurais personnellement jugé préférable un maintien du doute qui aurait donné un tout autre relief à l'œuvre. D'autant qu'on a quand même, tout du long, un personnage presque unidimensionnel, hein, toujours victime, qui aurait mérité plus de complexité morale peut-être, hein, pour faire de l'histoire de Souleymane le portrait d'un homme immigré plus que celui d'un gentil sans papier. Foco Amaré, par-delà Lampedusa de Gianfranco Rosi, documentait déjà en 2016 la réalité migratoire que nous connaissons aujourd'hui, où plus de 100 000 personnes tentent chaque année de traverser la Méditerranée, souvent au péril de leur vie. Le film de Lojkin lui aussi nous interroge, et cette question est collective et politique. Quelle place sommes-nous prêts à accorder à ces hommes et femmes qui, comme Souleymane et Abou Sangaré, n'ont d'autre choix que de migrer pour survivre ?
L'histoire de Souleymane est en salle depuis le 9 octobre. Jérémy revient dans un petit village pour un enterrement et décide d'y rester, ce qui ne sera pas sans conséquence. Nous allons parler maintenant de Miséricorde et entendre son réalisateur Alain Guiraudy.
Cinérama.
Je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas ?
Actualité, cinéma et tout le reste.
Pas très compliqué à comprendre, moi.
Après le très comestible « Quand vient l'automne » de François Ozon, les champignons, hein, donc là, ici, les morilles, hein, reviennent à nouveau hanter le cinéma. Et pas n'importe lequel, hein, celui d'une des personnalités les plus singulières, hein, Alain Guiraudy. Après le récréatif « donc Viens, je t'emmène », hein, qui se déroulait à Clermont-Ferrand, le cinéaste opère un retour à la terre, au fin fond de l'Aveyron, contrée rurale, qui lui a inspiré quand même ses plus beaux films. Alors « Miséricorde », hein, un titre biblique, mais ô combien justifié, hein, débute comme une sorte de western moderne, filmé dans un superbe format. Un jeune homme étrange, hein, Jérémy, donc revient dans son village natal, Saint-Martial, pour l'enterrement de son ancien patron boulanger. Il s'installe pour une nuit au départ, hein, chez Martine, sa veuve, mais son séjour n'est pas vu d'un bon œil par le fils de cette dernière, Vincent, qui ne souhaite qu'une chose, que Jérémy parte. Alors jouant habilement avec les codes du thriller chabrolien, hein, le film installe une ambiance inconfortable et nébuleuse, hein, qui nous empêche d'anticiper la moindre situation à venir, car rien ne va se passer non pas vraiment comme prévu, mais comme dans la majorité des films français. Le scénario brillant, hein, combine les genres avec une très grande fluidité d'exécution, faisant ainsi le grand écart, bon, entre la comédie grivoise la plus dévergondée et le film fantastique aussi, avec quelques inflexions horrifiques. Alors accepter de rentrer dans le monde bizarre et pourtant si naturel de Guiraudy, hein, reste une expérience de spectateur totalement galvanisante, hein, je dirais même euphorique, hein, une sensation éprouvée parfois après avoir ingurgité certaines espèces cheloues de champignons.
Je peux rester ?
Ce soir ?
Même quelques jours ?
Bon, enfin, tu fais ce que tu veux. Il y a toujours la chambre de Vincent.
Pourquoi tu restes ici ? Tu l'aimes bien, hein, Mère ?
Ouais.
Sans dévoiler, hein, les ressorts d'une intrigue qui ne cesse de bifurquer, hein, Miséricorde démarre alors comme une sorte de récit policier rural avec effectivement une disparition, un meurtre, des champignons, pas vraiment vénéneux mais disposés à la mauvaise place, des autochtones au trône pas possible, tout droit sorti d'un cinéma des années 40 ou même d'un western italien. La réussite du film tient aussi à son personnage principal, hein, Jérémy, lointain cousin de Terence Stamp dans Théorème. Hein. Dès qu'il débarque dans le village, sa présence crée un malaise dans son entourage. Alors pour quelle raison ? Nous l'apprendrons par bribes. Il suscite aussi du désir. Ses motivations sont ambiguës, très floues, impossible de déterminer s'il s'agit d'un ange ou du diable, d'une figure positive ou négative. Il est le moteur fictionnel du film, hein, celui qui va mettre en ébullition son environnement fantasque. En effet, dans ce petit théâtre insolite, une pléthore de silhouettes atypiques se croisent. Hein. Alors un fils frustré et violent, alors génialement interprété par Jean-Baptiste Durand, réalisateur de Chien de la casse. Hein. Un paysan bourru au physique impressionnant, un duo de flics mal assortis sortie, mais hilarant. Et puis surtout, un curé absolument incroyable, par qui le sens profond du film sera révélé dans une séquence totalement mémorable de confessionnal. Sans doute, peut-être, l'un des plus beaux moments de cinéma de l'année et la séquence la plus incroyable du film. Et tout cela sans une once de provocation gratuite. Alors, Guiraudy nage à contre-courant de la pensée un peu réactionnaire actuelle et ça fait un bien fou dans son film qui révèle en fait une forme de moralité de la moralité.
Il va pas falloir que tu t'installes.
Ça, c'est pas à toi d'en décider.
Tu me lâches maintenant.
C'est comme ça que vous cherchez des champignons ?
Dans ce film merveilleux où le désir déborde de partout mais ne se consomme pas, non par pudibonderie mais lucidité, l'auteur de L'Inconnu du lac ne se repose pas sur l'excellence de son scénario insaisissable, mais très écrit. La mise en scène aussi privilégiant les ambiances nocturnes, très peu éclairées et puis une science précise du cadrage, apporte une tension et une noirceur nécessaires à ce polar existentiel burlesque et mystique, croisement improbable entre le meilleur de Jean-Pierre Mocky, Jacques Becker du Goupil Marouge et puis le Chabrol Goguenard de Poulet au vinaigre. Et certainement, pour moi, l'un des 2-3 grands films de l'année.
Et puis là, il y a des Maury, il est question des Maury, mais il fait souvent intervenir des choses comme ça. Il y avait la Dourougne dans Le Roi de l'Évasion notamment, et toujours il y avait un inspecteur. Et c'est souvent les mêmes archétypes qui reviennent souvent.
Mais peut-être que celui-là est, ce que je l'ai pas dit, est peut-être plus grand public que les autres. C'est-à-dire que là, le film est relativement accessible.
Ouais. Alors nous allons écouter Alain Guiraudy, qu'on a toujours plaisir à rencontrer. C'est pas la première fois que je le rencontre, et donc il nous parle de ce film Miséricorde.
Où est-ce que tu étais encore passé toute la journée ?
J'étais avec le curé.
Bon, lui, ferait mieux de dire des messes plutôt que de se promener.
Oui, je reste à la campagne de toute façon parce que je cultive aussi une certaine intemporalité quoi dans mes films. Ça me plaît d'être un peu entre aujourd'hui et les années 70. On va dire que quand même j'ai une grande nostalgie pour le monde de mon enfance quoi. Et c'est vrai que le village a d'ailleurs beaucoup plus à voir quoi avec les années 70-80. Je pense que, enfin, sauf qu'il était plus vivant, je pense, à les années 70 quand même. Il y avait peut-être réellement une boulangerie dans le village, mais voilà, je pense qu'à la campagne ça marche très bien quoi. Enfin, ça marche mieux à la campagne qu'en ville en tout cas, l'intemporalité. Et puis je sais pas, même en ville, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a trop de monde. Il y a alors je l'ai fait dans Vieille Je t'emmène quoi, mais c'est marrant. Autant un village, j'ai l'impression que ça marche bien, village dépeuplé. Autant une ville dépeuplée, sans figuration ni rien, c'est beaucoup plus, c'est plus compliqué quoi. Voilà.
Je vais faire une machine.
Il y a quelqu'un ?
Bon, on se voyait un peu à l'époque.
On se fréquentait pas beaucoup, hein.
Et moi, je t'appréciais.
Je pense que le film a aussi beaucoup à voir quand même avec la tragédie, quoi, et avec, alors que, oui, qu'elle soit grecque ou pas, quoi, ou autre. Et ça aussi, je pense, beaucoup à voir. Alors ça, c'est marrant parce que je m'en suis plus rendu compte a posteriori, quoi. Mais quand même, ça a vraiment à voir aussi avec une mythologie qui nous est propre. Je parle de la mythologie chrétienne, quoi. C'est vrai que quand même, alors c'est curieux que je m'en sois rendu compte après, mais ça, on peut y voir aussi Abel et Caïn, quand même, il y a deux frangins c'est comme deux frères aussi qui s'entretuent, quoi, hein, donc...
Vincent n'est pas rentré de la nuit, tu l'aurais pas croisé.
Laisse-toi.
Allez !
Quelqu'un l'aurait bien vu s'il avait eu un accident.
Ça, c'est toujours ce qu'on se dit.
Chacun a le droit à une vie privée, pas vrai ?
C'est un motif que je travaille depuis pas mal de temps, moi, l'idée c'est avec Le Roi de l'Évasion que j'ai réellement commencé à essayer de mêler légèreté, gravité, une espèce de tragédie et comédie aussi, quoi. Je pense que déjà dans Vieille Je t'emmène, il y avait ça aussi. Enfin, déjà dans Le Roi de l'Évasion, il y avait ça, mais sauf que ça tirait beaucoup plus du côté de la comédie. L'Inconnu du lac était beaucoup plus du côté de la tragédie. Je sais pas, je réajuste un peu le tir à chaque voyage, quoi. Et là, l'idée, c'était quand même de. Alors, toujours pareil, c'est plus. Est-ce que c'est vraiment. Enfin, toujours, ouais, tragédie, comédie, légèreté, gravité, quoi. Voilà, toujours quelque chose. Ou même, j'aime bien le côté, on sait pas trop quoi. En pensée, même, mais...
On s'est laissé dire que vous vous voyez beaucoup dans la forêt tous les deux.
Il y a quelque chose que tu n'oses pas me dire avec Vincent.
Que faisiez-vous sur cette route ? Je ne pourrais pas toujours vivre avec ce secret.
Tu étais où ?
Et quels sont vos rapports avec l'abbé Grisole ?
Le côté jubilatoire du film, enfin, et puis le côté jubilatoire qu'on peut avoir à l'écrire. C'est-à-dire qu'il y a un personnage principal qui est toujours en train de raconter une histoire de manière à ce que ce qui s'est passé, ce qu'il a raconté avant, tienne la route. Quoi. Voilà. Ce qui est un peu le boulot du scénariste. Oui, je sais que moi, je me suis beaucoup plu à ça. Quoi, quand même, la mythomanie est assez peu utilisée, je trouve, au cinéma. Quoi, alors que c'est à la fois un gros ressort comique, quoi, et puis en même temps, c'est un gros ressort de, comment dirais-je, ça, le grand moteur du cinéma, ça reste le mystère. Quoi, voilà, donc, qu'est-ce qu'il raconte ? Est-ce que, effectivement, comme vous dites, les autres, comment ils font pour gober ça, quoi ? Et en même temps, je pense qu'ils ont les doutes au bon moment. Quoi, voilà.
On pense qu'il nous cache quelque chose.
Et qu'est-ce qu'il pourrait bien vous cacher ?
Ça, on peut pas savoir, puisque justement, il nous le cache.
C'était Alain Guiraudy qui nous parlait de son dernier long-métrage, Miséricorde, que nous vous invitons à aller voir en salle, puisqu'il y est depuis le 16 octobre. Un crayon magique tombe entre de mauvaises mains. Nous parlons maintenant de Harold et le crayon magique.
J'en ai rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Cinérama.
C'est votre dernier mot ?
Harold est un personnage de fiction qui peut donner vie à tout ce qu'il souhaite d'un simple trait de son crayon violet magique. Alors, grandissant avec ses amis, un élan et un porc épique, hein, il décide un jour de se dessiner une porte de sortie hors de son livre et de se projeté dans le monde réel. Alors il faut dire que son geste est guidé par la volonté de retrouver son maître, son créateur, qui ne donne plus signe de vie. Une fois dehors, il se retrouve transformé en homme de chair et de sang et va découvrir qu'il a beaucoup à apprendre sur la vie et sur notre monde. Rapidement poursuivi par ses fidèles compagnons qui eux aussi héritent d'une apparence humaine, ce qui est pratique pour se fondre dans la masse, il va aussi se rendre compte que son crayon magique va autant attirer l'attention et le désir de personnes positives comme négatives. Après avoir rencontré un petit garçon vivant seul avec sa mère dépassée par le deuil récent qu'elle doit surmonter et l'encadrement de ce garçon très gentil mais forcément turbulent, il va se retrouver face à un bibliothécaire prétendant déçu de la mère évoquée plus tôt et auteur sans succès de romans d'heroic fantasy qui voit en ce crayon un moyen et de séduire la maman et de rendre crédible et palpable son univers créatif ignoré de tous. Les producteurs ne prennent pas trop de risques en marchant sur les traces de plusieurs films pour enfants ou feel-good movies ayant fait leurs preuves. Alors à la simple évocation du pitch, on pense à un mélange de l'oublié mais sympathique Richard au pays des livres magiques, le poétique L'Indien du placard, à l'excellent Enchanté, jusqu'à l'échec en salle du récent Blue et compagnie. Alors Harold et le crayon magique risquent de suivre le même chemin que ce dernier, tant le manque d'audace et de spontanéité du film risque de rebuter non seulement les enfants, mais également les amateurs friands de ce genre de récit, normalement coincés entre l'émerveillement pur, l'évocation malicieuse du pouvoir magique de l'enfance et aventure endiablée et émouvante. Eh bien oui, n'est pas Joe Dante qui le veut, et c'est malheureusement une leçon que devra tirer Carlos Saldana de son passage au film en chair et en os. Car Saldana fait un peu le même parcours que Harold dans ce film. Il a d'abord été remarqué pour ses multiples films d'animation, et en particulier une saga qui a durablement marqué les enfants des années 2000. Saldana est un des piliers du studio Blue Sky et a réalisé 3 H de glace sur 5, mais aussi les 2 Rio et le moins connu Ferdinand. On pouvait penser que le passage à ce qu'on appelle le live action allait se faire avec fluidité et qu'il allait tirer justement tous les bons enseignements de la formation méticuleuse qu'il faut pour tenir un film d'animation, mais il n'en est malheureusement rien. Harold et le crayon magique est désespérément plat dans sa photographie totalement banale qui est pourtant assurée par Gabriel Berinstein, l'homme derrière les magnifiques ambiances de Dolores Claiborne et de Blade 2, excusez du peu. Alors par conséquent, la mise en scène est à l'avenant, n'ayant aucun plan mémorable à offrir aux spectateurs, un comble lorsqu'on parle de personnages sortant d'un univers de fiction est capable d'ensoleiller par des moyens magiques le quotidien banal et morne du vulgus pecum.
And terrifying. That's terrifying.
Même le traitement scénaristique s'arrête à la grille d'écriture que l'on devine dès les premières minutes de visionnage sans chercher à aller plus loin que les lieux communs désespérément attendus. Alors si vous cherchez une double lecture intéressante ou une prolongation de thématiques pirandelliennes au sein d'une grosse production shootée aux effets spéciaux, vous n'aurez même pas ça. Harold est un personnage en quête d'auteur qui ne va pas interroger plus loin que ça les limites de son monde et sa finitude en tant qu'être artificiel et va se contenter du minimum, à savoir procurer du bonheur aux gens qui l'entourent. Alors on est donc bien loin de la manière dont un vrai auteur, John McTiernan pour ne pas le citer, s'était emparé du même sujet pour faire à la fois un film réflexif, explosif et introspectif, en plus de délivrer une comédie méta en avance sur son temps. Je parle bien évidemment de Last Action Hero, un chef-d'œuvre incompris en son temps et devenu culte depuis. Un statut qu'Harold et le crayon magique n'atteindra sûrement pas, malgré l'investissement louable de Zachary Levi dans un rôle de gentil naïf, mais qui n'était pas évident à rendre attachant.
Eh bien, ce film, Harold et le crayon magique, est en salle depuis le 16 octobre. C'est le film sensationnel du moment. Il est interdit aux moins de 18 ans, terrifieur, séduit, parlons-en.
Par ici, s'il vous plaît.
Cinérama.
Ah, mais avec joie.
T'as survécu au tueur en série le plus célèbre depuis Jack l'Éventreur. Le 5e anniversaire approche.
Succès surprise en salle, Terrifier 3 a pour sa première journée attiré 45 000 spectateurs, alors en dépit ou peut-être grâce à son interdiction aux moins de 18 ans qui, si elle ne me semble pas pleinement justifiée, se comprend au regard d'une séquence provocatrice ou libératrice dans un centre commercial. Disons que la connexion entre terrorisme et enfants, par les temps qui courent, ce n'est pas au goût de tout le monde. Il est même surprenant que certaines associations ne soient pas montées au créneau pour demander une interdiction pure et simple.
Et brûler du cinéma.
Oui, voilà. Et casser des sièges, voilà, de ce film d'horreur, on va dire, pas très correct.
Je pense que beaucoup de gens aimeraient avoir de tes nouvelles après tout ce qui s'est passé. Je veux savoir ce que ça fait d'être en présence d'un tel mal. Qu'est-ce qui te traverse l'esprit quand il est assez près pour que tu sentes son souffle sur toi?
Je l'ai vu aujourd'hui.
Qui? Comment tu peux être sûr que c'était vraiment lui?
Je le sens.
Mais c'est qui, lui? Il a fait peur à mon fils.
Oui. Il me fait peur, à moi aussi.
Et le Père Noël donne des cadeaux.
Alors la VF est épouvantable. Elle rappelle les grandes heures des vidéoclubs. Alors je ne sais pas si c'est fait exprès, mais c'est assez dur de tenir deux heures avec une VF aussi
lamentable. Allez.
Mais que vaut, en fait, donc cette troisième mouture des aventures, si l'on peut dire, d'Art le clown, le boogeyman le plus stimulant vu depuis longtemps, sorte de serial killer punk et anarchiste qui n'obéit à aucun code moral. Alors si vous avez aimé le 2, vous allez prendre votre pied devant un festival de séquences gore aussi gratuites qu'inventives, si excessives qu'elles finissent par être encore plus jouissives que vomitives. Alors Terrifier 3 parvient à trouver, on va dire, un juste équilibre entre distance et frontalité, premier et deuxième degré, mais si vous êtes sensible aux geysers de sang, aux membres arrachés, aux énucléations, et puis j'en passe de plus belle, évitez de vous confronter à ce slasher. Toujours aux commandes, Damien Léon reprend la même recette que le précédent, avec pour personnages principaux les survivants. Le scénario se révèle quand même assez médiocre, assez basique. Les acteurs sont quand même un peu à la ramasse, l'image n'est pas très belle, mais l'ensemble dégage une atmosphère un peu bizarre, un parfum vintage qui force le respect. Et surtout, Art le clown est l'attraction principale de ce délire. Grand guignol et cathartique. Ce tueur au teint blanchâtre et au petit chapeau est à la fois drôle et terrifiant, sadique et enfantin. Et si, comme moi, les clowns vous mettent quand même un peu mal à l'aise, ils risquent de vous hanter pendant longtemps. Et en à peine trois films, on peut dire qu'il est rentré au panthéon des icônes maléfiques du cinéma aux côtés de Chucky, Freddy, Michael Myers et Jason. Voilà, chapeau l'artiste. D'ailleurs, un quatrième opus est en préparation.
C'est toujours interdit au moins 18 ans.
Je trouve que c'est chouette, moi, en fait, dans ce genre de film, c'est parce qu'en fait, on se tape tellement de films depuis des années qui n'ont plus vraiment de grammaire du suspense, de grammaire cinématographique du suspense, que moi ce qui m'a plu, c'est pas tant les scénarios dans les Terrifier, c'est surtout que Damien Léon, il prend son temps. Chaque fois qu'il fait ses scènes, alors on lui reprochait, parce que ses films sont un poil longs, le 2 il fait quand même 2h15, le 3 il fait 2h, mais il prend son temps pour essayer de découper sa mise en scène, de créer du suspense. Mine de rien, c'est assez rare aujourd'hui, on se base beaucoup sur le jumpscare. Rien que pour ça, je t'avoue que j'ai un petit coup de cœur pour ça.
Il y a une élaboration dans les scènes de meurtre, en fait, mais je pense qu'il prend un peu trop son temps pour des scènes qui sont un peu inutiles, comme les scènes de réunion familiale, où là, il se passe quasiment rien.
Il fait meubler.
Voilà, c'est un peu comme dans un bon film porno, finalement, où il y a, si on enlève les scènes qui sont attendues, il n'y a pas grand-chose entre, en fait.
Et c'est un connaisseur voilà. qui en parle.
c'est le principe du slasher. Hein. Ça a souvent été comparé au cinéma X.
Terrifier 3, donc, est en salle depuis le 9 octobre.
Je vous trouve si nerveux. Quelque chose ne va pas ?
Terminé pour aujourd'hui.
Pas si vite.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé.
Ça ne me dérange pas le moins du monde.
Je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire.
Il lui arrive quoi, elle ?
Au revoir.
Pardon ?
J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir. De vous revoir, de vous revoir.
Oui, ça ne fait aucun doute.
Ça ne servirait à rien de le nier.
Merci.
On se retrouve la semaine prochaine avec bien l'antithèse de Gilles Lellouche, puisque ce sera un film roumain qui était aussi en compétition à Cannes, à 3 km de la fin du monde. Et puis toi, Manu ?
Ce sera le repli, le documentaire.
Et puis toi ?
Moi, j'ai voulu faire du repli, mais j'ai dû regarder le remake de The Killer, par John Woo lui-même.
À la semaine prochaine.
This is Cinerama.